Donc nous sommes dans le livre des juges, au chapitre 4. La semaine dernière, nous avions vu ce simple verset 31 au sujet de Shamgar et de voir les différentes leçons spirituelles que nous pouvions tirer de ce récit-là. Et donc on arrive au chapitre 4 et 5, et là, on a plusieurs changements. Déjà, on a un changement géographique qui se produit. On n'est plus dans la même partie du pays d'Israël. Ici, on va aborder la situation des tribus qui se trouvaient au nord du pays et qui ont subi l'oppression des Cananéens sous le règne de Jabin, le roi de Hatsor. Et on voit cela dans les premiers versets ici du chapitre 4 du livre des Juges. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisra et habitait à Harosheth-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Alors, peut-être que ce nom semble familier, Jabin. Roi de Canaan qui régnait à Hatsor, parce que dans le livre de Josué, on retrouve ce Jabin, roi de Hatsor, dans Josué chapitre 11. Mais c'est pas la même. Il n'a pas vécu aussi longtemps que cela. En fait, ici, il se peut que c'était l'un de ses descendants. Et puis même que, en fait, Jabin, c'était un titre pour ceux qui régnaient sur cette ville de Hatsor. Mais toujours est-il que bon, ce n'est pas ce même roi, mais la situation pour Israël, eh bien, on retrouve encore une fois la même problématique. Le chapitre 4, il commence par le même constat que dans les chapitres précédents. Les enfants d'Israël firent ce qui, encore, ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et c'est un constat qui est récurrent à travers le livre des Juges, ce péché qui se répète de manière assez troublante d'ailleurs. On se dit comment est-ce qu'ils ne parviennent pas à apprendre la leçon? Mais il faut aussi regarder aussi à nous-mêmes, est-ce que nous apprenons toujours les leçons que le Seigneur nous enseigne? Est-ce que nous ne sommes pas parfois aussi coupables de retomber dans les mêmes péchés? Et de voir aussi que à travers cela, surtout, ce que nous voyons, c'est la fidélité de Dieu, sa grâce, son amour et sa miséricorde. Mais ce qui est troublant, c'est que voilà, à chaque fois qu'il y a cette figure de juge qui vient à disparaître, c'est là que les problèmes spirituels reprennent. D'ailleurs, on l'avait vu au chapitre 2 et verset 19, il y avait ce résumé par rapport à la période du livre des juges, où il nous répétait au verset 19 que à la mort du juge, eh bien, la nation d'Israël se corrompait de nouveau plus que leur père. Ils allaient après d'autres dieux pour les servir, se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors, dans ce chapitre 4, il y a effectivement ce lien avec la fin du chapitre 3, où nous voyons, nous avons vu ce qui s'est passé sous Éhud et Shamgar, qui laisse aussi penser qu'on est plus ou moins dans la même période. En tout cas, pour Shamgar, c'est quelque chose d'avéré, parce que dans le chapitre 5, dans le fameux cantique de Déborah, elle va mentionner que, voilà, à l'époque de Shamgar et de Jaël, mais Jaël, bon, c'est vraiment dans ce récit de chapitre 4 et 5 que nous voyons cette femme Jaël. Et donc, on est dans la même période, mais pas dans la même zone géographique. C'est-à-dire que là, ce qui va être décrit dans ce chapitre 4, comme j'ai dit, c'est une situation qui se produisit dans les tribus du nord d'Israël. Et alors, on peut penser que effectivement, là aussi, l'influence d'Éhud n'a pas peut-être été aussi propagée. On comprend que dans le sud, puisqu'il était là, bon, son influence a été plus grande. Il se peut que son influence sur les tribus du Nord soit due justement à cet éloignement géographique, mais il n'empêche que, voilà, ils étaient tout aussi coupables que les autres tribus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils abandonnaient l'Éternel. Mais il y a eu une influence quand même, parce que, effectivement, ici, le lien est fait entre eh bien, la situation dans ces tribus du Nord et l'effet hein, du ministère hein, d'Éhud en tant que juge. Mais ça illustre vraiment encore une fois hein, ce problème hein, qui a existé en Israël. On voit l'effet bénéfique du juge pendant sa période de vie, mais ensuite on voit aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de continuité. Et je veux dire, sincèrement, c'est quelque chose, ce sont des situations qui arrivent encore de nos jours. Hein, ça arrive fréquemment dans des églises où lorsque eh bien, le pasteur décède ou il prend sa retraite, qu'il y ait des membres qui abandonnent. Parce qu'il n'y a plus de berger pour prendre soin, pour enseigner, pour corriger, etc. Et d'autres vont surtout abandonner parce que il y a de l'immaturité. Hein, il n'y a pas cette maturité spirituelle qui fait que, bon, le pasteur nous a enseigné comment nous devons vivre en tant qu'Église. Le pasteur nous a enseigné comment nous devons agir ou réagir. Il nous a enseigné comment avoir du discernement, etc. Et normalement, l'Église devrait être apte à pouvoir, on va dire, se maintenir et survivre quelque temps, même sans le ministère d'un pasteur en son sein. Mais beaucoup hein, vont quitter, abandonner pour diverses raisons. Hein. Certains, c'est ben, ils prêchent pas comme l'ancien pasteur. Hein, ils s'occupent pas de l'Église comme l'ancien pasteur. Et les gens, ils partent comme ça pour diverses raisons. Mais on sait que lorsque le berger n'est plus là, c'est là où il y a le plus grand risque de danger. Hein, on comprend cette image d'un berger, d'un troupeau, hein, de moutons, et que quand le berger n'est pas là, eh bien le danger hein, d'animaux sauvages qui attaquent le troupeau, eh ben, va être plus accru parce qu'il n'y a pas cette présence-là. Et donc ça arrive fréquemment hein, dans les églises que, eh bien, il y a ces situations où une fois qu'il n'y a plus cette figure, et ça peut être bon, ça peut être le pasteur, ça peut être aussi hein, la famille, ça peut être un ami chrétien sur qui certains dépendent tellement pour leur vie spirituelle, que quand cette figure n'est plus là, eh bien, il n'y a plus de motivation ou de volonté de continuer à marcher hein, sur la voie que ces personnes eh bien, ont encouragé les chrétiens à suivre. Et donc, il n'y a plus personne pour, par exemple, pour les encadrer, pour les conseiller, pour les encourager, plus personne pour les avertir, etc. Et souvent, c'est ce qu'on voit arriver. On voit arriver quand il y a des jeunes, souvent, qui arrivent à l'âge d'aller à l'université et ils se retrouvent à être. Ils ne sont plus dans ce giron familial, ils ne sont plus dans cette protection familiale où ben, les parents peuvent dire, bon, attention à ça, fais attention à ceci, etc. Et ils sont hein, dans ce monde, hein, ils sont face quelque part, hein, ils sont seuls à faire face à cela. Et souvent, parce que leur vie spirituelle était bâtie, fondée sur la présence de personnes, hein, le pasteur ou les parents, etc. Et quand il n'y a plus cette présence-là et cette influence-là, eh bien, ils sont un peu comme ben, ces graines qui avaient germé quand le soleil est arrivé, hein, elles ont brûlé au soleil. Il n'y a pas de fondation ferme dans leur vie. Et donc, c'est ça le danger. Le danger, c'est que quand on lie notre vie spirituelle à une personne et à son influence, plutôt que de lier notre vie spirituelle au Seigneur, hein, plutôt que bah, ma relation avec le pasteur, c'est bien, ou ma relation avec un tel à l'église, c'est bien, ça me fait du bien, et on met plus d'importance à cela que bah, le bien d'avoir cette relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est là la problématique que l'on voit encore une fois ici, hein, dans le peuple d'Israël, dans cette période-là, c'est que, encore une fois, chaque fois que le juge venait à disparaître, eh bien voilà, le peuple retombait dans le péché. Et les conséquences sont lourdes. Regardez le verset 2. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Hein, le mot employé ici, hein, l'expression employée, nous renvoie à ce vocable, à ce vocabulaire de l'esclavage, à cette idée de changement de maître, à cette idée que voilà, tu n'es plus presque, bah, tu m'appartiens plus presque. Hein. Et l'idée, c'est vraiment que ici, hein, l'Éternel, eh bien, va les laisser se débrouiller. Il faut se rappeler que bon, ça faisait à peu près 200 ans que Israël avait été délivré hein, de l'esclavage en Égypte. Mais voilà, c'est un mot fort ici que l'Éternel emploie dans sa parole par rapport à Israël. Par sa rébellion, Israël avait, oui, choisi d'abandonner l'Éternel pour s'attacher aux idoles cananéennes. C'est ce que l'on voit d'ailleurs hein, dans le cantique de Déborah au chapitre 5 et le verset 8, en parlant d'Israël qui avait choisi de nouveaux dieux. Eh bien, lorsqu'une personne, ici en l'occurrence un peuple, mais lorsqu'une personne va s'entêter à vouloir suivre le péché, malgré les avertissements répétitifs, malgré la connaissance qu'ils ont aussi des Écritures, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'on leur a enseigné, bien Dieu peut à certaines occasions les laisser prendre cette voie-là et subir les conséquences de ce choix de vie, mais toujours dans le but, eh bien, de leur apprendre quelque chose et de les ramener à lui. On voit, par exemple, dans les écrits de Paul, hein, dans l'épître aux Romains, on voit que c'est ce que Dieu avait fait. En Romains chapitre 1, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon leur convoitise de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Plus loin, verset 26, hein, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Toujours hein, dans ce même chapitre, à la fin du verset 27, ils recevaient en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est-à-dire que Dieu peut, à certains moments, dans la vie de certaines personnes, dire, ah, tu veux vraiment aller par là? Ben, vas-y, et tu vas voir ce que ça donne. Et il le fait déjà par grâce, parce qu'il n'agit pas comme un Dieu qui ben, dirige des petits robots, il accorde cette libre arbitre, ce libre choix à ses enfants, mais il veut surtout que eux puissent comprendre que, à force de s'entêter à pécher contre l'Éternel, à un moment donné, eh bien, l'Éternel va devoir les laisser subir ce qu'ils recherchent tant. Et plus loin, dans le verset même 28 de ce chapitre premier de Romains, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, et donc Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ou encore, dans le chapitre 2, où il parle de l'endurcissement, du cœur impénitent, qu'à cause de cela, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et donc voilà, ici l'Éternel, lorsqu'il vend Israël, eh bien, à ce roi de Hatsor, hein, Jabin, c'est parce qu'ils ont choisi cela. Ils voulaient suivre d'autres dieux. Ils voulaient hein, s'intégrer hein, dans cette culture cananéenne et dans cette religion cananéenne. Et l'Éternel dit, bah, vous voulez ça? Vous l'aurez. Mais vous l'aurez aussi avec les conséquences du péché. Il les a laissés suivre un autre maître. Il les a laissés entre les mains de l'ennemi. Et le plus terrible, c'est que bon, le péché va toujours produire plus de péché. Et le péché, comme Jacques nous l'enseigne, le péché produit la mort. Et le produit la mort, non pas parce que, voilà, parce que bon, certains se disent que, voilà, Dieu, il donne sa loi, et quand tu enfreins sa loi, c'est lui qui te punit, mais c'est aussi lui qui veut te sauver. Et ils s'imaginent un Dieu ainsi qui est impétueux, qui est égoïste, hein, qui exige l'obéissance ou l'adoration hein, sous peine de châtiment extrême. Mais ce n'est pas cela. Ce que Dieu nous montre dans sa parole, c'est que le péché nous éloigne de la bonté de Dieu, de sa bienveillance, de sa protection, de la vie, parce qu'il est la vie. Et donc, dans ce sens-là, le péché produit la mort. Lorsque l'être humain choisit le péché, il choisit de s'éloigner de Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est que, voilà, moi je veux t'aider à ne pas suivre ce chemin de destruction, je te donne une loi. Et cette loi va te montrer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et en suivant cette loi, tu auras une idée de comment eh bien, vivre une vie qui poursuit vraiment le bien et non pas le mal. Mais voilà, Israël, ici, se compromet encore une fois spirituellement et ça n'a pas facilité leur vie. Alors, souvent, l'idée du compromis, c'est de pouvoir faciliter un peu les choses, n'est-ce pas? Mais ici, ça n'a pas été le cas. Parce que malgré son choix d'adopter les divinités cananéennes, le peuple de Canaan vouait du mépris, de la haine contre Israël. Et il agissait avec violence contre le peuple d'Israël. Où donc a été le bénéfice pour eux d'abandonner l'Éternel, de suivre le péché, la voie qui mène à la mort, et finalement, ce compromis qu'ils pensaient, c'est bien, on va être comme les autres et on se fera mieux accepter, finalement, ça a été encore une fois à leur détriment. Au chapitre 5, dans ce cantique de Déborah, il y a une description de cette tyrannie exercée par les Cananéens. Ces derniers, on l'avait vu avec Shamgar, contrôlaient l'économie en bloquant les principales routes commerciales. Ils se sont attaqués aux Israélites alors qu'ils étaient sans défense. Parce que, il faut comprendre cette situation-là aussi. C'est que Israël n'avait quasiment pas d'armée à ce moment-là. Ils capturaient les femmes et en faisaient ce qu'ils voulaient. Et ça a duré pendant 20 ans. Jusqu'à ce que Israël se ressaisisse encore une fois et implore l'Éternel de les secourir. C'était vraiment un climat de terreur. Un climat de terreur. Israël était complètement dépouillé au bord du gouffre, de la guerre, et sans aucune ressource militaire pour se défendre face à une armée qui, elle, était devenue conséquente. Une armée qui était technologiquement plus avancée également. Et donc Israël n'était logistiquement pas prêt à combattre un tel adversaire. Nous voyons dans le chapitre 4 que lorsque va venir ce juge Déborah, cette prophétesse au verset 4, on va voir qu'elle va appeler Barak. Et Barak va prendre 10 000 hommes d'Israël pour aller combattre Sisra. 10 000 hommes contre 900 chars. Pour essayer de comprendre aussi un peu le rapport de force ici, ça représente au moins à peu près une dizaine de soldats pour un char qui, lancé à vive allure, pouvait rapidement faucher ses soldats, sur lequel, outre le pilote, sur ces chars, il pouvait y avoir un ou deux archers, peut-être plus. Et donc c'était une arme redoutable que le char. D'autant plus que ceci était en fer, montrant donc la puissance économique, si vous voulez, parce qu'il faut mettre l'argent pour, sans vouloir faire de mots, faut mettre de l'argent pour avoir des chariots en fer, mais il y a un coût pour cela. Mais ça montre effectivement que ici, ces Cananéens étaient arrivés à un point où, ils avaient tellement grandi sur le plan économique que militairement, ils pouvaient se permettre d'avoir une grande armée comme celle-ci et d'avoir des chars aussi redoutables. Je crois que peut-être l'image la plus contemporaine qui me venait à l'esprit en pensant à ceci, c'est dans la Seconde Guerre mondiale, en 1939, lorsque l'Allemagne va envahir la Pologne, et on a tous entendu ce récit que l'armée polonaise s'est engagée dans le combat avec des fantassins, mais aussi avec des cavaliers et des lances. Imaginez un peu, on est en 1939, et on a l'armée allemande super moderne, parce que pendant le temps où les autres se disaient « c'est bon, on est en paix », l'Allemagne, elle, a développé la technologie militaire, etc. Et donc, en face de cette armée polonaise, il y a une armée technologiquement supérieure, en tout point, et on a cette armée polonaise qui vient avec encore des cavaliers et des lances. Et bon, ils ont pu s'en prendre à quelques fantassins, et ensuite ils se sont fait prendre par les chars d'assaut. Donc face à cette oppression qui a duré une vingtaine d'années, face à la puissance militaire de l'ennemi, hein, le peuple d'Israël constata avec effroi sa situation et du fond de son gouffre spirituel, elle implore à nouveau l'Éternel qui répond avec grâce, qui accorde la victoire d'une manière surprenante. Et elle est surprenante pour plusieurs raisons. Mais moi, je suis toujours, et encore une fois, émerveillé, hein, de voir la grâce de Dieu et sa patience. Hein, quelle grâce d'avoir un Dieu qui nous aime, hein, d'un Dieu qui est amour, comme Jean nous le rappelle dans sa première épître, ou comme Paul le rappelle que l'amour, par définition, est patient. Et c'est justement parce que Dieu aime que Dieu a été patient avec Israël. C'est parce que Dieu aime et parce que Dieu a été gracieux qu'à un moment donné, il a dit, bon, vous voulez faire comme vous voulez? Allez-y. Hein, c'est un peu comme l'histoire, hein, du fils prodigue. Hein, donne-moi tout ce que je veux, je pars d'ici. Et le père, ben, vas-y. Et le fils prodigue a dû apprendre dans son malheur et par son malheur à s'humilier devant son père. Le psaume 103 et verset 8 nous rappelle que nous avons un Dieu qui est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Le psaume 34 et verset 19 aussi, hein, nous rappelle que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et voilà où se trouve donc cette nation d'Israël à ce moment-là. Et la grâce de Dieu va donc être manifestée à partir de ce moment-là. Et on va voir une délivrance qui est vraiment atypique. On va lire, hein, à partir du verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh-Naphtali, et elle lui dit: n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur ce mont Tabor, sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Naphtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit: si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit: j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Naphtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Et donc, dans les versets suivants, hein, on a le récit, hein, de la victoire qui va être accordée, mais, juste pour un peu résumer ce qui se passe. On a une délivrance atypique à cause des personnes que Dieu a choisies. Une délivrance atypique parce que déjà on a un travail d'équipe. Hein, les juges précédents, on voit ces figures être là et prendre l'initiative de faire quelque chose, etc. Et certains d'entre eux, c'était seuls qu'ils ont accompli les choses. Mais ici, donc, on a une équipe, une sorte de binôme, hein, de Déborah et Barak. On a également une délivrance atypique parce que sur ces personnes que Dieu a choisies pour la libération, hein, d'Israël et comment la libération a pu être obtenue, deux de ces trois personnes sont des femmes. Deux de ces trois personnes sont des femmes. On a Déborah et Jaël. Et ça, c'est intéressant parce que, effectivement, Déborah, ici, c'est la seule femme qui a été juge en Israël. Atypique aussi par la manière, hein, dont la victoire, elle a été accordée. Et Dieu voulant, on verra, hein, ces choses un peu plus en détail la prochaine fois. Mais vraiment, cette équipe atypique, hein, que nous voyons avec Déborah et Barak, c'est intéressant parce qu'on a une femme qui est assez extraordinaire et on a un homme qui, normalement, bah, une fois qu'il avait reçu cet appel de l'Éternel, il aurait pu se dire, bah, c'est bon, j'y vais. Mais vous avez noté avec moi que On ne sait pas. Est-ce qu'il a eu la trouille? Est-ce qu'il a manqué de foi? Hein, est-ce que le fait hein, de demander à Déborah de l'accompagner, c'était parce qu'il avait peur, ou bien est-ce que c'était parce que il savait qu'il avait besoin que ben, cette femme de l'Éternel puisse être là à côté de lui pour assurer cette victoire, même si, bon, elle lui avait dit, la victoire, c'est l'Éternel qui te la donne, va, prends tes hommes et va. On a une femme assez intéressante ici avec Déborah. Le livre des Juges, donc, introduit ici celle qui, suite à cette révélation divine, va initier cette libération d'Israël. Celle qui porte un nom qui caractérise assez bien sa personnalité. Hein, Déborah, ça signifie abeille. Hein, c'est Matthew Henry, un commentateur biblique du XVIIe siècle, qui à ce sujet explique que, tout comme l'abeille, Déborah apparaît comme une femme ben, industrieuse, perspicace, hein, qui a du discernement, qui va être utile, mais qui va montrer aussi de la douceur hein, envers son entourage, mais qui va être aussi très incisive envers ses ennemis. Et je trouvais cette comparaison-là assez intéressante. Mais voilà, les versets 4 et 5 donc, nous la présentent de trois manières. Prophétesse, femme de Lapidote, et finalement juge en Israël. Déborah fut certainement l'une des figures les plus remarquables pendant cette période de 350 ans relatée dans ce livre des Juges. Une prophétesse. Comprenez bien que ici, elle est la première prophétesse depuis l'époque de Moïse. L'une des trois seules femmes prophétesses qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament, hein, avec Myriam et Hulda. Bon, le ministère prophétique impliquait cette réception d'une révélation de la part de Dieu, une révélation directe, mais aussi accompagnée d'une proclamation du message divin. Et souvent, hein, ces messages de la part de prophètes, c'était aussi de reprendre le peuple d'Israël, de l'inviter à se repentir, de revenir à l'Éternel. Mais voilà. Cette femme a été choisie par Dieu pour remplir ce ministère-là pendant cette période trouble de l'époque des juges. Et Dieu donc a posé sa main hein, sur Déborah, a répandu hein, sa vérité à travers elle à une époque où il nous faut bien comprendre aussi que c'est pas comme aujourd'hui où nous avons la révélation complète de Dieu. On n'a plus besoin de prophétie, on n'a plus besoin de ministère prophétique, parce que tout ce qu'on a besoin de savoir sur le plan de Dieu pour nous, tout ce qu'on a besoin de savoir pour vivre une vie qui honore pleinement l'Éternel, tout nous a été transmis. Donc le ministère prophétique, nous le voyons hein, même dans le livre des Actes, ainsi que les dons miraculeux, hein, qui s'estompent petit à petit. On voit que finalement, ces dons hein, et ce ministère que Dieu avait donné à l'Église pour appuyer le message des apôtres, pour appuyer le message de l'Évangile, finalement se sont estompés. Et donc, il n'y a rien non plus ici hein, de contradictoire avec ce que l'on peut voir aussi dans le Nouveau Testament par rapport à la fonction pastorale dans l'Église, hein, avec le fait que Dieu, hein, selon ce que Paul dit à Timothée, le ministère pastoral est bien réservé hein, pour les hommes. Il n'y a rien de contradictoire avec cela. Hein, on est dans une période ici qui est bien différente déjà de celle que nous vivons aujourd'hui, même si on voit beaucoup de similitudes. Mais je ne vais pas ce soir me lancer hein, dans ce sujet-là. Je crois que ça mériterait une toute autre étude et d'autres messages. D'ailleurs, que j'ai déjà prêché certains messages sur cette thématique-là lorsqu'on a vu la doctrine de l'Église. Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est que voilà, il y a cette femme qui sort de cette situation un peu vraiment ténébreuse hein, de la période des juges, qui va prendre cette initiative parce qu'elle reçoit cette révélation de la part de l'Éternel, qui va interpeller Barak pour qu'il prenne ses responsabilités et qu'il aille combattre l'ennemi. Elle va montrer de la douceur et également de la compréhension peut-être, parce que lorsque Barak lui dit « Je n'y vais que si tu viens avec moi », elle dit « D'accord ». Mais elle ajoute aussi « Mais il faut que tu comprennes ceci. C'est pas par ta main finalement. Ça va être par celle d'une femme. C'est-à-dire que ce que Dieu aurait très certainement prévu hein, dans son plan pour Barak, s'il avait effectivement accepté et suivi l'ordre de l'Éternel, l'Éternel aurait très simplement utilisé Barak pour anéantir l'armée, mais aussi pour détruire Sisra. Mais là, effectivement, Déborah hein, va lui dire que ce n'est pas par lui, hein, c'est entre verset 9, hein, c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisra. Elle lui dit aussi, tu n'auras point de gloire. Tu n'auras point de gloire. Et je crois que finalement, c'est vrai que quand on regarde à ce récit-là, ce qui ressort comme, on va dire, compréhension hein, de Sisra et de sa réaction, etc., beaucoup se disent, ben, il a eu la trouille. De Barak. Que Barak, ben, il a eu la trouille face à ce que l'Éternel lui demandait de faire. Et donc, effectivement, pas vraiment de gloire pour lui. Ce que nous voyons surtout, c'est que Dieu, lorsque il nous appelle à le servir, lorsqu'il nous appelle à prendre part à son plan, ben, il y a la victoire. Il y a une grande victoire lorsqu'on répond avec fidélité, avec foi, avec confiance, et en faisant ce que l'Éternel demande. Donc la prochaine fois, on continuera de regarder un peu à la vie hein, de Déborah, et puis Dieu voulant, on verra aussi hein, tout le reste du chapitre 4 avec la victoire sur Sisra et son armée, comment Sisra a été éliminé, pour, encore une fois, hein, comprendre comment Dieu peut employer qui il choisit pour son service, même quand ceux qui auraient dû prendre les responsabilités ne le font pas, Dieu peut susciter quelqu'un. Et donc on verra hein, que avec Déborah, oui, nous avons une prophétesse, on a une épouse, on a un juge hein, qui aura montré hein, à ce peuple d'Israël que ben, quand on fait les choses comme Dieu le demande, Dieu accorde gracieusement cette victoire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir ?